Les hommes et les femmes, mode d'emploi, Roselyne Fayard.
Aujourd'hui, Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et directeur d'enseignement à l'Université de Toulon. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages qui ont tous rencontré un très grand succès. Et parmi ceux-ci, on peut peut-être citer Les vilains petits canards ou encore Parler d'amour au bord du gouffre. Son dernier ouvrage est tiré d'un rapport choc sur le thème du suicide des enfants. Véritable phénomène de société chez les adultes, le suicide touche de plus en plus de jeunes et représente la deuxième cause de mortalité chez les adolescents. Véritable tabou, le suicide de l'enfant nous met tous évidemment en difficulté. Comment expliquer qu'un enfant souhaite en arriver à se priver de la vie? Boris Cyrulnik analyse un ensemble de causes dans ce livre. Il propose aussi des pistes de prévention. « Quand un enfant se donne la mort » est un livre paru très récemment aux éditions Odile Jacob. C'est Anne Marchand qui assure la technique aujourd'hui et Nathalie Schauenberg qui a choisi les musiques. Bonjour à tous. Bonjour Boris Cyrulnik.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver, même si le thème est extrêmement délicat, tant difficile à aborder que l'on peut peut-être hésiter à entrer dans ce thème du suicide des enfants. Il me semble qu'on est un peu tous dans le déni par rapport à ça. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Exactement. Exactement. C'est tellement impensable, c'est tellement insupportable qu'on préfère penser que ça n'existe pas. Or, ça existe.
Ça nous blesse, hein ? Ça blesse la vie en nous, moi, il me semble.
Ça, ben c'est le scandale total. Quand une personne âgée se suicide, ce que je vais dire est affreux, mais on comprend. Alors que quand un enfant se suicide, c'est impensable, c'est inconcevable. Et pourtant...
Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le suicide des adultes est beaucoup plus accepté ou toléré ?
Oui. Il y a une époque où le suicide était considéré comme un blasphème. C'est-à-dire que, dans la religion chrétienne, par exemple, il arrivait que le corps des suicidés soit supplicié. Parce qu'il avait enlevé une âme à Dieu, et Dieu lui avait donné cette âme, donc Dieu était le seul apte à le reprendre. Ensuite, quand j'ai commencé mes études, on considérait qu'il fallait être fou pour se suicider. Et je témoigne que... Il nous arrivait de recevoir des comas suicidaires à l'hôpital psychiatrique, où on n'était bien sûr pas du tout équipé pour s'en occuper.
Parce qu'on considérait que c'était une folie, c'est ça, c'était une folie au fond, une forme de folie que de sauter la vie, c'est ça.
Voilà, donc ils étaient envoyés à l'hôpital psychiatrique en coma. Et puis ensuite, on a considéré avec Durkheim, le sociologue, que l'origine du suicide n'était que sociale. Et là, il y a eu un progrès, et aujourd'hui, on considère que, bien sûr, le déterminant socio-culturel du suicide est énorme, mais que ce passage à l'acte est le résultat d'un processus et non pas d'une cause immédiate.
Vous avez mené, Boris Cyrulnik, une enquête pour le secrétariat d'État chargé de la jeunesse, donc en France. On vous a demandé de mener une enquête et de tirer au fond des grandes réflexions, puis des pistes, je disais tout à l'heure, des pistes de prévention. Pourquoi ce rapport sur ce phénomène du suicide des enfants, qui quand même jusqu'à maintenant est considéré comme rarissime ?
Alors oui, c'est rare, mais c'est un très bon indicateur de désorganisation sociale. Par exemple, la mort des enfants autour de la naissance, aujourd'hui, est rare. C'est 1 pour 1000 à peu près. En Afghanistan, aujourd'hui, c'est 2%. C'est-à-dire que lorsqu'une société se désorganise, les enfants meurent. Or, le suicide des enfants est rare en France l'an dernier. Les chiffres sont imprécis, mais on dit entre 27 et 40 selon les années. Donc c'est rare. Mais c'est un très bon indicateur de défaillance culturelle, parce qu'on voit que quand change la culture, le taux de suicide des enfants change. Et même souvent, quand change la culture radicalement, comme en Chine aujourd'hui, eh bien les filles, pour la première fois dans l'histoire humaine, se suicident plus que les garçons. Donc on voit que toute modification, tout bouleversement socioculturel provoque une flèche de suicide depuis qu'on en fait l'évaluation statistique. Depuis la Révolution française, on constate que ce phénomène se répète. Il y a eu des pics de suicide après la Révolution française qui étaient des pics de changement et de loi sociale. Quand notre culture change aujourd'hui, pour des raisons techniques essentiellement, eh bien, ça réalise un pic de suicide. Mais dans ce malheur, il y a quand même de bonnes décisions à prendre. On peut prévenir le suicide par des décisions socio-culturelles.
Mais Boris Cyrulnik, quand vous décrivez donc le suicide qui augmente, y compris chez les enfants, quand il y a une désorganisation sociale, est-ce que ça veut dire que ça a trait à notre difficulté ou la difficulté à l'individu à trouver sa place ? Est-ce que ça a à voir avec ça essentiellement ?
Voilà, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est le résultat d'un processus. Lorsque un enfant est isolé, ou un adulte, ou un âgé, est isolé, l'idée de suicide peut lui venir en tête. Or, cette idéation suicidaire ne vient pas en tête de tous les isolés. Cette idéation suicidaire, provoquée par la solitude ou par l'abandon, ne vient en tête que de ceux qui ont été abandonnés, isolés sensoriellement au cours des premiers mois de l'existence. Et ça, c'est la découverte actuelle des neurosciences qui confirme ce que disait Durkheim, le suicide est fortement déterminé par une défaillance sociale, mais ça n'exclut pas le déterminisme individuel. Un enfant qui a été isolé au cours des premiers mois de sa vie, au cours des dernières semaines de la grossesse, parce que sa mère a été stressée, parce qu'il y a eu un malheur, parce qu'il y a eu une guerre, parce qu'il y a eu une maladie autour de l'enfant, autour de la mère, cet isolement, cet appauvrissement de la niche sensorielle d'un bébé provoque l'acquisition d'une vulnérabilité neurologique qui rend l'enfant incapable de maîtriser ses émotions beaucoup plus tard. Et c'est pour ça qu'on voit des enfants de 8, 10 ou des adolescents de 10, 15 ans se suicider parce qu'ils ne peuvent pas contrôler le passage à l'acte.
Mais c'est impressionnant ce que vous dites. Donc ça nous ramène quand même à chaque fois à l'origine, au début de la vie, à ce qui se passe dans les tout premiers mois. C'est là que s'inscrirait une certaine tendance.
Oui, même avant la naissance. On a fait des enquêtes sur les mères stressées.
Oui.
Shaul Harel, à Tel Aviv, a soigné 170 femmes qui consultaient pour syndrome psychotraumatique, femmes israéliennes et palestiniennes, qui consultaient pour syndrome psychotraumatique. Ces femmes ont été entourées par des psychologues et sécurisées pour la plupart, mais à la naissance, tous leurs enfants avaient un retard de taille et de poids très important et une atrophie des deux lobes préfrontaux. C'est-à-dire que le malheur de la mère, à cause de conflits de guerre chronique du Proche-Orient, avait altéré le cerveau de l'enfant. Ces enfants-là, en vieillissant, n'ayant pas de lobes préfrontaux, ne savaient pas, n'avaient pas acquis le moyen neurologique de maîtriser l'impulsion. Et beaucoup plus tard, au cours d'un inévitable problème de la vie, une petite frustration, une mauvaise note à l'école, être grondé, pour eux, pour ces enfants-là, c'est un traumatisme majeur et ils sont d'une intensité extrême et ne savent pas contrôler l'émotion.
Boris Cyrulnik, mais alors, qu'est-ce qu'il faut considérer comme un stress de la femme ? Puisque nous, par exemple, dans nos pays en Europe, nous ne vivons pas la guerre, il y a longtemps que nous sommes protégés de ce fléau. Qu'est-ce que l'on peut considérer alors comme situation suffisamment stressante pour rendre fragile au fond cette capacité à gérer ses émotions plus tard pour le bébé ?
Schématiquement, l'isolement sensoriel du bébé, quelle que soit la cause, maladie de la mère, violence conjugale, excès de stress parentaux, quand les deux parents se lèvent à 5 heures, commencent à sprinter toute la journée pour rentrer épuisés le soir, ça réalise un stress pour l'enfant et ça réalise aussi un appauvrissement de la niche sensorielle. Donc les conditions expérimentales de non-maîtrise de la pulsion sont créées par notre culture technologique et par notre culture du sprint.
Mais donc, notre façon de vivre qui va de plus en plus dans ce sens-là. Les mères qui travaillent. Enfin, on revient de nouveau aux mères.
Non, pas du tout. Non, surtout pas.
Comment ?
Les mères ont toujours énormément travaillé.
Oui.
Avant l'ère industrielle, quand j'étais enfant, les femmes travaillaient à l'usine, au champ, à la maison. Et elles travaillaient 15, 16 heures, parfois plus, par jour. Elles travaillaient énormément. Mais la structure culturelle était telle que les enfants n'étaient, les bébés n'étaient jamais laissés seuls. Quand une femme, quand une mère était malade, il y avait le lit des relevailles. Elle disait « je me sens pas bien ». Elle se mettait dans le lit des relevailles, un groupe de femmes s'occupait du bébé, un groupe d'hommes s'occupait de l'alimentation et des réparations de la ferme. La mère et l'enfant n'étaient jamais isolés, ce qui n'est pas le cas dans notre culture moderne, où quand une jeune femme est déprimée ou malade, elle est seule. Et même la maternité a énormément changé de conditions. Il y a deux générations, quand une femme mettait au monde un enfant, elle était fêtée et entourée. Aujourd'hui, quand une femme met au monde un enfant, elle est isolée et entravée socialement. Donc c'est une défaillance socio-culturelle et non pas du tout une cause maternelle.
Mais les femmes mettent en place des relais quand même avec les crèches, avec les pouponnières qui accueillent leurs enfants pendant qu'elles travaillent. Est-ce que ça veut dire que les enfants se sentent isolés malgré cette mise en place ?
Non, quand il y a des relais mis en place, les enfants ont ce que dans les théories de l'attachement, on appelle un système familial à multiples attachements. C'est-à-dire la mère, bien sûr, mais aussi le père, les métiers de la tante et les métiers de la petite enfance. Et dans ce cas-là, bien sûr, il n'y a pas l'acquisition de cette défaillance neurologique. Donc là, les enfants se développent bien, même quand la mère travaille.
Donc au fond, ce sont notamment les conditions sociales, quand elles deviennent difficiles, elles se durcissent, qui font que la mère, l'enfant se retrouve isolé au fond. Là, vous mettez en cause ce qui se passe dans nos sociétés en ce moment, quand on retrouve des femmes seules, élevant leur enfant seul avec un sentiment de lutter, de combattre très seul. C'est ça au fond.
Oui, on peut le dire comme ça, mais une femme seule n'est pas forcément isolée.
Oui.
Si une femme seule élève son enfant avec sa propre mère, avec la grand-mère de l'enfant, eh bien l'enfant n'est pas isolé, la mère non plus. Si une femme élève un enfant avec un autre homme, un compagnon, ou avec un groupe familial ou un groupe social, elle n'est pas isolée. Ce qui compte, c'est d'organiser autour de l'enfant une niche sensorielle. Et si cette niche sensorielle est organisée par la mère, le père, le compagnon, la grand-mère, les métiers de la petite enfance, tout se met en place correctement. Mmh. Et non seulement ça se met en place correctement, mais s'il y a une altération, parce que la mère a été stressée pendant la grossesse, eh bien la niche sensorielle, le substitut affectif de la niche sensorielle, permet une résilience neuronale qui se déclenche très rapidement.
Donc ça veut dire que l'on peut réparer, cette expérience d'isolement.
On ne répare pas comme avant, ça ne revient pas à l'état antérieur, mais le développement reprend de manière tout à fait convenable, parfois même très bien, mais ce n'est pas le développement qu'aurait dû avoir l'enfant s'il n'y avait pas eu de traumatisme. En revanche, la résilience neuronale, maintenant il y a énormément d'équipes qui travaillent sur ce sujet, et la résilience neuronale, est, contrairement aux préjugés, c'est la plus facile à déclencher. Dès la première nuit, le sommeil se remet en place, la sécrétion des hormones se remet en place et le corps suivra. Donc, contrairement aux préjugés, la résilience neuronale est très facile à déclencher.
Je rappelle que je reçois cet après-midi Boris Cyrulnik. Vous venez de publier « Quand un enfant se donne la mort », un livre sorti aux éditions Odile Jacob. On va écouter une chanson sortie très récemment d'Alain Souchon, « Le jour et la nuit ». Il y a un très beau cœur d'enfant d'ailleurs qui l'accompagne.
Il y a le jour.
À l'école et je vais au petit collège. Tout ce que le maître a dans sa tête, on me le mettra. Dans la mienne, Napoléon, les ancêtres de Cro-Magnon, déclinaison, conjugaison, les mots, leur terminaison, addition, soustraction. Au bout d'un moment, on s'ennuie, mais la nuit, la nuit. Un grand oiseau capable m'emporte sur son dos bleu. On s'envole dans le ciel bleu. À tous les avions que l'on double, on vole au vent, on vole en rêvant. Comme Superman et Peter Pan, Jumbo l'éléphant volant. On se lance dans le vide, la nuit c'est moi qui décide.
Il y a le jour.
Voulez-vous vous taire? Le jour, range tes affaires. T'as des devoirs à faire, c'est la faute à Voltaire. Après, tu cours dans la cour, après, tu retournes en cours. Suivre le livre, c'est là qu'on apprend à vivre, à obéir, à réfléchir. Quelquefois aussi, on s'ennuie, mais la nuit. Un grand requin lavable m'emporte sur son dos bleu. On se balade dans la rade avec les poissons camarades. Oh oh Nemo, oh oh Jack Sparrow. On voit les pièces d'or d'un trésor tout au fond de l'eau qui dort. Je suis une pieuvre livide, la nuit c'est moi qui décide.
Là, vous venez d'expliquer, Boris Cyrulnik, les causes sociétales, comment est-ce qu'une société peut se désorganiser, comment une vie familiale peut se désorganiser, comment est-ce qu'un enfant peut vivre de façon précoce un sentiment d'isolement et de manque de stimulation sensorielle. Est-ce que, c'est quand même la question qu'on a envie de se poser tous, est-ce qu'il y a une génétique qui expliquerait que certains enfants, parce que quand on parle des enfants même jusqu'à 6, 5 ans, ce qui est ahurissant, enfin, on a presque encore envie de les appeler des bébés, enfin, pour la mère, c'est encore un bébé, et comment est-ce qu'un enfant peut en arriver à concevoir de se tuer? Bon, alors après, il y en a peu qui vont passer à l'acte et surtout qui vont réussir. Ça reste un geste quand même assez isolé pour l'instant, en tout cas en France, en Suisse. Mais comment est-ce possible qu'un enfant en arrive à cela? Est-ce qu'il y aurait un gène?
Alors, c'est pas sûr que l'enfant conçoive la mort. Mmh. Il peut très bien passer à l'acte, se jeter par une fenêtre, se jeter sous une voiture, sans penser à la mort. Le mot « mort » met longtemps à devenir adulte. Dans un premier temps, le mot « mort », c'est « là, pas là », présent, absent. Mmh. Puis ensuite, c'est « je fais un jeu avec les doigts, je dis « poum » et tu tombes en poussant un cri étrange. On appelle ça la mort, c'est très amusant. Et puis en vieillissant, vers 5 ans, 6 ans, 7 ans, le mot « mort », c'est « très loin ». Grand-mère, elle est très loin, mais elle va revenir bientôt. Et c'est seulement vers 8, 9 ans, 7 ans, que l'enfant devient capable de concevoir l'irréversible, quelque chose qui ne reviendra plus jamais. Donc le mot mort met longtemps à devenir adulte, et il n'est pas sûr qu'un enfant de 6 ans qui se suicide se donne la mort. Peut-être qu'il passe à l'acte, peut-être qu'il est tenté par une exploration étrange, qu'est-ce qui se passe après quand on est mort, peut-être qu'il veut rejoindre grand-mère. Il y a plusieurs causes qui font que nous, adultes, on appelle ça suicide, mais que peut-être le mot n'est pas pertinent dans un monde d'enfants.
Mmh. Et la notion de prédisposition génétique existe-t-elle? Est-ce qu'il y a des familles dans lesquelles on se suicide?
Oui, tout à fait. Il y a des familles à suicide, mais il n'est pas dit que ce soit pour des raisons génétiques.
Oui.
Par exemple, dans ces familles à suicide, on ne trouve pas de gènes, on ne trouve pas d'ensemble génétique qui pourrait commander l'acte suicidaire. En revanche, on trouve un déterminant génétique de l'émotivité. Et si ces enfants émotifs sont bien entourés, ils pensent bien évidemment pas au suicide. Mais lorsque ces enfants émotifs sont entourés par des gens eux-mêmes en difficulté et qui murmurent « la grand-mère s'est suicidée, la tante s'est suicidée », à ce moment-là, l'attention de l'enfant est orientée par le murmure, par l'étrangeté du murmure, et il s'identifie à « moi dans ma famille, à chaque génération, quelqu'un se suicide ». Et en cas de malheur, il va avoir une idéation suicidaire. Donc ça n'est pas génétique, c'est transmis par le murmure.
Donc l'histoire qu'on raconte, l'histoire qu'on se raconte les uns aux autres.
C'est ça.
C'est ça.
Voilà. Et c'est même pas des histoires, c'est des murmures. C'est-à-dire
pourquoi vous dites murmure ?
on parle pas du suicide à voix haute.
Ah oui.
On murmure.
On insinue plutôt.
Voilà, c'est ça. Et l'enfant est intrigué par ce murmure. C'est ce que j'ai appelé le murmure des fantômes.
Oui.
L'enfant est intrigué par ces murmures, il a l'attention intriguée, il découvre et comprend que dans ma famille, on se suicide à chaque génération, donc c'est un problème psychologique, c'est identificatoire et non pas génétique, même s'il y a des familles à suicide.
Donc au fond, c'est une sorte de modèle au fond, qui se dessine voilà. Dans la tête de l'enfant. Quand on est malheureux, on peut faire ça, ou ça se fait, ou dans ma famille, on choisit cette solution.
Voilà, exactement.
Mais ça n'est pas conscient, évidemment, quand on est un petit enfant.
C'est pas conscient, mais c'est quand même ressenti intensément.
C'est quand même opérant, oui.
Je vais faire comme ma grand-mère, je vais faire comme ma tante, puisque dans ma famille, on fait ça.
Oui. Mais puisque vous parliez de modélisation, alors évidemment, la question aussi, c'est est-ce que tout ce que les enfants voient, là je parle évidemment des images, de la télévision, et où la mort est constamment présenté comme une solution, la violence étant une solution quand on se sent pas bien, enfin, etc. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a une identification à ce qu'il voit, à ce qu'il regarde ?
Oui, on sait maintenant clairement que les enfants ou les adultes qui regardent des écrans, quel que soit l'écran, plus de 3 heures par jour, ont un risque de dépression et de suicide 3 fois plus grand que la population générale. Donc c'est pas conscient, comme vous l'avez dit, n'empêche que ça s'imprègne dans l'inconscient et qu'en cas d'angoisse, en cas de malheur, l'idée vient en tête et l'enfant, le jeune, peut passer à l'acte et aboutir ou non au suicide. Mais l'idée lui vient en tête parce qu'il y a un modèle autour de lui.
Donc vous dites 3 heures par jour, on peut être menacé de dépression, quelle que soit l'image, quel que soit ce que l'on regarde ?
L'écran. Quel que soit l'écran... Les journalistes qui passent leur temps devant les écrans, je serais bien curieux de savoir quel est le nombre de dépressions dans la population des journalistes. Il doit, à mon avis, être très élevé.
C'est une des professions menacées par les burn-out, en effet.
Et ben voilà.
Comme les soignants.
Exactement.
Pour quelle raison chez les uns et les autres?
Parce qu'il y a une proximité affective qui n'est pas gouvernable. C'est ce qu'on disait tout à l'heure des enfants. Les enfants isolés précocement n'ont pas acquis la capacité neurologique de contrôler leurs émotions, et quand plus tard on se met devant un écran, on perd cette capacité de contrôler ses émotions. Par exemple, un écran améliore incroyablement la communication.
Oui.
Il n'améliore pas du tout la relation. Mmh. C'est-à-dire que quand je parle avec quelqu'un, j'ai besoin de voir comment elle est habillée, quelles sont ses mimiques, si elle m'encourage à parler, si elle fait des grimaces de dégoût quand je parle. Ça, c'est de la relation.
Et donc, c'est tout le développement de l'empathie, au fond.
Voilà.
Qu'on ne peut pas développer devant un écran tout seul.
Voilà. On a des informations stupéfiantes, des qualités d'information stupéfiantes, mais ce n'est pas une relation. Donc, face à un écran, je n'ai pas besoin d'apprendre à contrôler mes émotions. Et en cas de petit malheur dans la vie, pour moi, ça va être un grand malheur, puisque je ne sais pas contrôler mes émotions. Et à ce moment-là, l'idée de suicide peut me venir en tête, alors que le stress, le trauma est minuscule. Mais je ne sais pas contrôler mes émotions.
Pourquoi est-ce que c'est l'idée du suicide, c'est-à-dire d'en finir avec la vie, qui émerge à ce moment-là? Qu'est-ce que ça dit de l'émotion, des émotions présentes en nous?
Quand on ne peut pas contrôler l'émotion, il arrive qu'on pense que la mort, elle, va en effet logiquement supprimer ces émotions qui me font souffrir. Beaucoup de mélancoliques souffrent terriblement. Et ils font des mises en scène de leur mort, ils ne passent pas à l'acte, mais ils font des mises en scène de la mort qui leur permet de penser « si je souffre trop, j'ai toujours une solution ». Et ils ne passent pas à l'acte, mais la simple mise en scène de la mort les soulage.
Est-ce qu'on peut considérer que le fait de symboliser sa mort est une ressource tant qu'on ne passe pas à l'acte ?
Tout à fait. Alors, c'est l'œuvre d'art et la mort. Il ne faut pas oublier que les premières sépultures, c'est le théâtre de la mort. Mmh. On peint des cailloux, on pleure, on dispose les corps, on fait des offrandes. Et à ce moment-là, on rend sa dignité aux morts en symbolisant, en signifiant « je pleure parce que tu n'es plus là, j'ai un chagrin, je fais savoir mon chagrin ». Mais je te fais une offrande alimentaire, je pense à toi, je mets des fleurs. Et ce théâtre de la mort, symbolisé de la mort, permet de contrôler le deuil, la souffrance du deuil. Les œuvres d'art, beaucoup d'œuvres d'art, sont faites pour ça, pour contrôler la souffrance de la perte. Mais dans ce cas-là, la culture permet de contrôler l'inévitable souffrance qu'on ressent dans notre vie.
Plutôt que de laisser les enfants seuls devant un écran de télévision, on devrait leur donner des papiers blancs et des crayons de couleur, voilà. Au fond. C'est ça que vous nous dites.
Exactement. Et lorsque les enfants sont gardés par un frigidaire et la télévision, ils sont engourdis, ils sont médusés par l'écran, mais ils n'apprennent pas à contrôler leurs émotions, ni par un rituel, ni par une présence. Et plus tard, en cas de mauvaise note à l'école, en cas de déménagement d'un copain ou d'une copine, en cas d'une petite bêtise de la vie, pour eux c'est un drame et ils pensent à la mort.
Oui, parce que c'est ça qui sidère les adultes, c'est que lorsqu'il y a des enquêtes sur le suicide d'un enfant, qu'il soit une tentative ou qu'il ait réussi, c'est a fortiori évidemment plus grave encore, mais les adultes disent mais il s'était rien passé en fait, c'était pas si grave. C'est ça aussi qui sidère.
Absolument. En France, une institutrice a mis une mauvaise note à un petit garçon qui est parti en courant et qui s'est pendu. Donc on ne peut pas dire que l'institutrice est très culpabilisée.
Bien sûr.
Mais il est impossible de dire que c'est la mauvaise note qui a provoqué le suicide de l'enfant, parce qu'à ce moment-là, on serait tous suicidés. On a tous eu des mauvaises notes. Mais non, vous n'avez pas une mauvaise note, vous ?
Si.
moi aussi.
Si, tout moi à aussi. Fait. Nous avons résisté vaillamment, surtout.
Voilà. Donc, pourquoi ces enfants-là ne résistent pas? Parce qu'ils ne savent pas contrôler leurs émotions, parce qu'ils n'ont pas acquis le contrôle neurologique très précoce.
Je reçois cet après-midi Boris Cyrulnik sur le thème de votre dernier ouvrage qui a pour titre « Quand un enfant se donne la mort ». C'est d'ailleurs un livre, au fond, issu d'une enquête, d'un travail de recherche que vous avez réalisé pour le gouvernement français qui va faire un travail de prévention. On en parlera peut-être dans quelques instants. On va écouter une chanson interprétée par les Pink Floyd, « Mother ».«
Mother, do you think they'll drop the bomb ?»
La première, les hommes et les femmes, mode d'emploi, Roselyne Fayard.
Mother, do you think they'll like the song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I run for president? Mother, should I trust the government?
Boris Cyrulnik, on parlait là des incidents, ce qui paraît pour les adultes, des incidents de parcours. Vous parliez d'une mauvaise note, d'un événement qui ne paraît pas suffisamment dramatique pour déclencher un désir de mourir. Mais ce que l'on met en cause quand même dans notre société régulièrement, c'est la pression qui est faite sur les enfants. Ces notions de... Albert Jacquard a beaucoup parlé de ça d'une façon remarquable, je trouve, quand il disait, au fond, la société de compétition, c'est une société de destruction, qui fait qu'on se compare les uns aux autres ou qu'on se compare à un idéal que l'on ne peut rejoindre. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cela, Boris Cyrulnik ?
Tout à fait. Cette culture du sprint est une culture qui mène à l'angoisse et au stress. C'est-à-dire, et n'améliore pas les résultats. Les pays d'Europe du Nord qui ont diminué le sprint scolaire restent premier au classement PISA, c'est-à-dire à l'évaluation scolaire internationale organisée par l'UNESCO. Or, ces enfants-là, en Finlande, en Europe du Nord, ont deux fois moins d'heures de cours que les autres Européens. Ils ont des cours de 20 ou 30 minutes et ils sont premiers à tous les classements internationaux. Les Japonais, les Coréens du Sud étaient aussi excellents, mais à un prix humain exorbitant, parce qu'ils avaient deux écoles, une école publique le jour et une deuxième école la nuit à la maison, dans les cafés ou dans les caves, avec des professeurs particuliers. Et les enfants travaillaient jusqu'à 10 ou 11 heures du soir, et ils ne faisaient que ça. Les résultats scolaires étaient extraordinaires, à un prix humain exorbitant, dépression, troubles du développement, suicide. Je ne l'ai pas mis dans le rapport, parce que le rapport sud-coréen est apparu après que j'ai signé le bon à publier, mais les Sud-Coréens viennent de prendre la décision de ralentir le sprint scolaire. Les Japonais l'ont fait, les Suédois, les Finlandais l'ont fait, tous les pays qui l'ont fait n'ont pas diminué les résultats scolaires. En revanche, ils ont énormément amélioré le développement des enfants.
Et ils ont diminué le taux de suicide chez les jeunes. C'est aussi
40% en moins de 10 ans.
Ouais.
Presque de moitié en moins de 10 ans. C'est-à-dire que là, on a des recettes, on a des décisions politiques à prendre. Est-ce que les gouvernements vont les prendre? Ça, je vous répondrai la semaine prochaine ou dans 15 jours. Mais on a des propositions à faire.
Mais nos pays, justement, là je pense à la Suisse, à la France, hein, et toute l'Europe, nous restons dans des sociétés de compétition extrême et qui va durer toute la vie et qui va nous épuiser. Mais comment faire, puisque les parents sont de bonne volonté, veulent que leurs enfants soient adaptés et trouvent du boulot. Enfin, il y a quand même tout un ensemble de choses à considérer, Boris Cyrulnik. Dire à ses enfants, ne fais pas, tu as trop de devoirs. Allez, va jouer au foot. Quel est le parent qui osera faire ça, franchement?
Presque aucun. Parce que l'école est devenue le nouvel organisateur de nos sociétés.
Ouais.
Et que c'est le diplôme, maintenant, qui va hiérarchiser nos enfants. Et c'est le diplôme qui devient l'instrument de la répétition sociale. Si un enfant a de bonnes notes à l'école, c'est que probablement son père, sa mère avaient de bonnes notes à l'école. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'organisation sociale et de la vie familiale et de proximité avec certains lycées. Donc là, il y a un déterminisme socio-économique majeur des résultats scolaires d'un enfant. Alors, bien sûr, dans notre culture, tant que les parents seront angoissés par le risque de ne pas trouver de travail, ils vont mettre la pression sur leurs enfants pour que les enfants aient de bonnes notes à l'école. Seulement, quand les enfants ont de bonnes notes à l'école, ça sert de tranquillisant aux parents. Mmh. Quand vous mettez un 20 sur 20 à un enfant, c'est comme si vous donniez 3 comprimés de Temesta aux parents. Mais c'est parce que notre culture est organisée sur le sprint, alors que beaucoup d'autres cultures, les Américains viennent de faire cette réforme aussi, les Américains sont très mauvais dans les petites années. Ce sont des étudiants absolument remarquables. Mmh. Or, ils sont en train de faire des réformes visant à améliorer non pas les résultats scolaires, mais le développement des capacités intellectuelles d'un enfant. Et plus tard, on le note, et plus tard, on le met à l'épreuve une fois qu'il est structuré, une fois que sa personnalité est en place. Et là, les étudiants américains sont remarquables, alors que les élèves des high school, des collèges, sont très mauvais. Plus mauvais encore que les Français.
Boris Cyrulnik, mais il n'y a pas de développement personnel. Le développement personnel, qui est évidemment un mouvement fort en Occident, maintenant, concerne les adultes. C'est lors des premières grandes crises que certaines personnes commencent à faire du développement personnel. Ça veut dire, dans le meilleur des cas, 35 ans. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est vrai qu'on prend peu de temps pour se développer d'une façon plus globale, émotionnellement, relationnellement.
Oui, mais ça, c'est notre culture qui fait qu'on fragmente le savoir et on augmente le sprint. C'est-à-dire qu'on diminue la richesse humaine. Alors, le développement commence dès la fin de la grossesse, hein, c'est-à-dire que nos apprentissages commencent dans les dernières semaines de la grossesse. Et on sait maintenant que les petites filles, à 17 mois, ont déjà acquis 50 mots, des règles de grammaire et même la double articulation qui est née en Suisse, hein, de Saussure est née à Genève. Hein. Et ces petites filles de 17 mois savent faire ces performances de langage. Les petits garçons n'arriveront à faire cette performance qu'entre 22 et 24 mois.
Pour quelle raison ?
Ça veut dire... Alors, il y a des explications biologiques et d'autres culturelles. L'hypothèse biologique, c'est que les petites filles sont XX, donc plus stables, parce que si une anomalie est portée par un X, si l'autre X est sain, l'anomalie ne s'exprimera pas. Et on voit en effet que dans les consultations de neuropédiatrie, il n'y a pratiquement que des petits garçons. Et que jusqu'à la puberté, c'est les petits garçons qui sont en difficulté de développement. Ils ont un retard de langage très important. Et Daniel Stern, un autre grand nom de Genève, avec Nadia Stern, démontre que avant la parole, les petites filles, les petits garçons aussi, mais de manière moins pertinente, performante que les petites filles, disposent spatialement en position de conversation. La petite fille de 10-12 mois s'approche de l'adulte et fait un babil. Ça amuse l'adulte qui répond avec des mots. La petite fille attend le tour de parole alors qu'elle ne parle pas, elle a 12 mois. Et quand l'adulte a fini son tour de parole, sa séquence de parole, la petite fille recommence un babil. C'est-à-dire que ce lien affectif est le préalable, constitue le socle qui va permettre l'apprentissage, l'acquisition du langage.
Donc elle a le sens de l'écoute.
C'est une relation. C'est une relation spatiale. Un enfant insécure aura peur de l'adulte. Il va se mettre à distance, éviter le regard, augmenter les activités autocentrées, se sucer le pouce, se balancer. Et à cause de sa crainte de l'adulte, à sa crainte de l'autre, parce que chez lui on souffre, parce qu'il y a une maladie, parce qu'il y a une grand-mère qui a un Alzheimer, parce que le père est chômeur, parce que etc. L'enfant, parce qu'on souffre chez lui, acquiert très précocement un attachement insécure. Et il se périphérise, c'est-à-dire comme il est intimidé par l'adulte, il se met loin de l'adulte, il évite son regard, se balance, et l'enfant se met lui-même en position de ne pas apprendre le langage, de ne pas apprendre à parler. Et on voit que la parole et l'activité intellectuelle sont fortement liées à la sécurité affective.
Alors, Boris Cyrulnik, en suite logique, est-ce que cela expliquerait pourquoi il y a plus de garçons que de filles qui, dans nos pays, là on parle des enfants et des préadolescents, qui font des tentations, des tentatives de suicide ?
Alors, les filles, d'une manière générale, dans le monde entier, les filles font plus de tentatives de suicide que les garçons. Et les filles ont une idéation suicidaire plus que les garçons. Elles pensent plus souvent au suicide que les garçons.
Mais chez nous aussi.
Mais les garçons aboutissent plus souvent au suicide que les filles. Et ils se suicident 10 fois plus que les filles. Mais il y a des bouleversements culturels. Et on constate qu'actuellement, en Chine, les filles se suicident plus que les garçons. L'explication, c'est probablement l'urbanisme. C'est-à-dire que Durkheim disait... Les femmes vont se précipiter dans le monde moderne parce qu'il est plus confortable pour elles, il est moins difficile, moins dur physiquement que l'usine ou les champs. Elles vont se précipiter dans le monde moderne et pourtant, dit Durkheim, la ville ne va pas les soutenir, ne va pas les améliorer et elles vont être seules et le suicide des femmes va augmenter. C'est ce qui s'est passé. Et notamment, c'est ce qui se passe en Chine et depuis peu, qui vient d'apparaître à Porto Rico, en Colombie, là aussi où l'urbanisation devient galopante. Et je crois, je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, mais je crois bien que ça vient d'apparaître aussi en Belgique. Et que pour la première fois l'an dernier, les filles en Belgique se sont plus suicidées que les garçons. Donc ça veut dire que ça confirme que tous ces bouleversements culturels sont des déstabilisations des personnes qui vivent dans cette culture, que les filles y sont très sensibles et que l'urbanisme dont elles raffolent, elles préfèrent l'urbanisme au champ, eh bien cet urbanisme, elles le payent très cher, elles le payent de la solitude et en cas de malheur, elles pensent au suicide.
Alors, vous dites dans votre livre que l'on peut intervenir à toutes sortes d'étapes, parce que comme vous l'avez bien montré dans cette conversation, c'est un processus au fond, entre voilà. Le moment où une première pensée traverse l'esprit d'un jeune, d'un ado, d'un enfant, et puis le moment où il va passer à l'acte, il y en a quand même des étapes. Il y a une espèce de... L'enfant a joué avec l'idée.
Voilà, exactement.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de ce processus-là pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe, parce que ça reste tellement mystérieux?
Alors, il y a des enfants qui se suicident. Alors, eux, ils pensent à la mort parce qu'ils sont abandonnés, parce qu'ils sont maltraités, parce qu'ils sont agressés sexuellement. Ils sont tellement malheureux que, eux, le mot « mort » devient adulte très tôt et ils y pensent. Et parfois, ils passent à l'acte. Mais c'est la minorité de ces enfants. La majorité de ces enfants ne pensent pas vraiment au suicide. Ils pensent suicider, ils pensent tuer cette souffrance, cette manière de vivre. Et ils passent à l'acte pour ça. Je cite toujours l'exemple d'une grande fille qui me disait « Je me suiciderai bien, mais après j'ai peur de le regretter ».
Oui, c'est-à-dire quand j'ai lu cette phrase, elle est étonnante, en effet.
Ah, ben, y a des phrases étonnantes. On en a noté beaucoup qui disent à peu près la même chose. Hein. C'est-à-dire que je veux tuer cette manière de vivre, mais je ne veux pas me tuer. Ouais. Mais quand on est enfant, on c'est pas clair. On fait, et même chez les adultes, d'ailleurs, c'est pas toujours clair. Donc on fait souvent ce contresens. Mais ce qui est plein d'optimisme, c'est que c'est un processus, c'est-à-dire que c'est tout le temps étonnamment plastique. Et qu'un enfant malheureux, si on lui propose un substitut affectif et une stabilité affective, l'idéation suicidaire va disparaître. Et si notre culture propose des lieux de rencontre, une culture populaire, de quartier, et non pas seulement de spectacles sportifs ou musicaux, la culture de quartier où on devra rencontrer le guitariste, parler avec la chanteuse, jouer au foot avec le charcutier. Si cette culture de quartier se développe, les enfants ne seront jamais seuls. Et même s'ils sont malheureux, eh bien, ils ne penseront pas à se donner la mort. Et plus tard, la crise suicidaire disparaîtra, parce que le mot important, c'est « crise ».
Je reçois cet après-midi Boris Cyrulnik. Vous venez de publier un ouvrage chez Odile Jacob qui a pour titre « Quand un enfant se donne la mort ». On va écouter une chanson de Florent Marché. Pourquoi es-tu si triste ?
Radio Suisse Romande, la première, les hommes et les femmes, mode d'emploi, Roselyne Fayard.
Mais quel est ce silence quand nous étions si bien ? Ce caillou dans la panse. On a battu le chien, mais pourquoi ces arêtes dans la gorge à présent, alors que l'on s'apprête à fêter mes 12 ans? Pourquoi êtes-vous si triste? Pourquoi êtes-vous si triste? Pourquoi ces téléphones que personne ne décroche? Pourquoi ce bel automne tout d'un coup vous écorche? Comme si les yeux rougis n'avaient pas la réponse. On allume des bougies, on avale des ronces. Pourquoi êtes-vous si triste? Pourquoi êtes-vous si triste? Pourquoi êtes-vous si triste? Pourquoi êtes-vous si triste? Je crois bien. Je sens bien qu'on me cache des choses. C'est arrivé si vite, j'entends encore l'écho d'un rire qui palpite à la pièce d'en haut. Et puis soudain, plus rien, ça vous rappelle à l'ordre. Une messe qui se tient avec des bruits de cordes. Je sais bien qu'on me cache des choses.
Ce que vous venez de dire, Boris Cyrulnik, à l'instant, c'est qu'au fond, on peut rattraper cet sentiment d'isolement, cette souffrance psychologique, et que ce n'est pas parce qu'un enfant et sa mère ont vécu cet isolement que c'est fichu, et d'une part, et d'autre part, que forcément, l'enfant s'enfermera dans des pensées morbides. Et vous disiez, dans le livre, vous le dites d'ailleurs, il suffit parfois d'un simple geste pour redonner de l'espoir, au fond. C'est cela dont vous parlez. Et là, on va aller évidemment vers qu'est-ce qu'on peut faire. Vous parliez à l'instant de la notion de quartier. Moi, j'entendais retrouver, au fond, la vie de village. Est-ce que c'est un peu ça que vous vouliez dire?
Voilà, exactement.
Remettre de la proximité.
C'est ça. Il y a une très belle phrase africaine qui dit « Il faut tout un village pour élever un enfant ».
Oui, c'est ça.
Et c'est vrai que j'ai vu en Afrique, au Congo, j'ai vu chez les Indiens de Lima, dans les pays asiatiques, tout le monde participe à l'éducation d'un enfant. La mère, bien sûr, mais pas à peine plus que les autres. Le père, les hommes, les femmes participent à l'éducation des enfants, soit pour des apprentissages, soit pour sécuriser, soit pour soigner les bobos, soit pour interdire. C'est-à-dire que n'importe qui peut gronder un enfant qui fait une bêtise. Dans nos cultures occidentales, c'est à peine possible. Ça, on ne peut pas gronder l'enfant de la voisine.
Parfois même pas ses petits-enfants.
Parfois même pas ses petits-enfants. Donc ça veut dire que quand il y a tout un village autour de l'enfant, même si la mère est malheureuse, malade, ou si il y a une tragédie dans sa famille, par exemple, je pense à un cas où une dame avait mis au monde un bébé et en même temps, sa propre mère commence une maladie d'Alzheimer. Et cette femme se trouve déchirée entre deux engagements opposés, s'occuper de sa mère ou s'occuper du bébé. Donc le mari, très gentiment, s'occupe des deux enfants aînés et la mère est déchirée entre sa propre mère et le bébé. Et le bébé se retrouve dans une situation de carence sensorielle. C'est-à-dire qu'il part mal dans l'existence, il devient insécurisé et très impulsif. Mais plus tard, si on trouve un substitut, si on développe les métiers de la petite enfance, cet enfant n'est pas abandonné puisqu'il aura sa figure d'attachement multiple qui lui permettra quand même d'apprendre à s'attacher, c'est-à-dire avant la parole, d'apprendre à se socialiser. Quand un enfant apprend à parler, apprend les rituels d'interaction, eh bien il se socialise bien et quand cet enfant arrive à l'école, il est intéressé par l'aventure scolaire, alors qu'il veut apprendre l'inconnu, alors qu'un enfant insécure, parce qu'il y a un malheur chez lui, parce qu'il a été malade, parce que sa mère a été malade, parce que pour des tas d'autres raisons, cet enfant va se mettre lui-même en situation de ne pas apprendre à l'école. Donc l'affectivité et les performances intellectuelles sont très fortement liées, très étroitement liées. Et à chaque étape du développement, on peut compenser le manque initial, soit avec les métiers de la petite enfance, soit avec les familles ouvertes, élargies, soit avec les patronages, soit avec la culture de quartier. Et à ce moment-là, même dans les milieux pauvres, même dans les couples parentaux qui souffrent, l'enfant n'est jamais en situation d'isolement sensoriel et il peut rattraper son retard. Et contrairement aux préjugés, les altérations neurologiques qu'on constate au scanner et à la résonance magnétique, en neurosciences, on constate sans difficulté l'altération des deux lobes préfrontaux. Eh bien, dès qu'on repropose une niche affective à l'enfant, dès la première nuit, on voit le processus de résilience neuronale se mettre en chantier.
Boris Cyrulnik, on a commencé cet échange en parlant du déni qui entoure le suicide des enfants. Et là, on parlait des enfants de 6 à 15 ans, des très jeunes. Comment repérer qu'il y a un danger, qu'un enfant est en danger? Est-ce qu'il y a des signaux que l'on peut repérer sans dramatiser? Parce que c'est aussi ça que nous risquons.
Tout à fait. Alors, il y a des signaux. Quand l'enfant est malheureux, maltraité, il y a des signaux. Il y a des signaux pour un adolescent qui s'isole, Généralement, il devient poignant de désespoir, et là, il y a des signaux très forts. Il s'auto-agresse, il devient mauvais élève, il devient irrité, il parle beaucoup de la mort. Donc là, il y a des signaux. Mais pour les suicides impulsifs des enfants, il n'y a pas de signaux. Les parents sont gentils, la famille fonctionne bien, l'enfant se développe bien, sauf que on est étonné parfois par l'intensité de ses émotions, mais on dit il est petit, ça passera avec l'âge, ce qui est vrai. Mais parfois, c'est le coup de tonnerre, l'enfant fait un acte suicidaire que personne n'avait prévu, et c'est bien sûr la tragédie familiale.
Et donc, comment on fait agir en tant que parent, si on est en souci, si on a un doute, si on est inquiet pour un enfant que l'on connaît, comment agir, comment se situer, puisque on a décidé d'ouvrir les yeux, hein, c'est un peu ça à travers votre livre que vous nous proposez de faire. D'abord, sortir du déni, se dire que ceci existe et que nous pouvons faire quelque chose, parce que c'est ça au fond ce que vous nous proposez. Comment agir?
Alors, c'est pas tellement aux parents d'agir. Les parents peuvent agir, comme ils le font presque pratiquement tous les parents, c'est-à-dire en sécurisant et en dynamisant l'enfant. Mmh. On peut dire que pratiquement tous les parents savent faire ça. Mais il faut agir sur les déterminismes socioculturels. C'est pour ça que j'ai appelé ce rapport « attachement et société ». C'est-à-dire que c'est pas les mères, c'est pas la famille, c'est la défaillance socioculturelle. Mmh. On peut agir, alors je propose trois adverbes, autour. Autour de la naissance, autour de l'école, autour de la famille. Autour de la naissance, il faut développer les métiers de la petite enfance et faire des congés parentaux longs, de façon à ce que les jeunes gens, mères et pères, puissent établir une niche avec une longue stabilité affective. Mmh. Et à ce moment-là, les enfants n'acquerront pas la vulnérabilité neurologique. Et quand plus tard ils auront des émotions, eh ben ils sauront les surmonter. Mmh. Le deuxième autour, c'est autour de l'école. Il faut qu'on arrête la culture du sprint, comme viennent de le décider les Japonais, les Coréens du Sud, et bientôt même les Américains, viennent de décider d'arrêter ou de ralentir la culture du sprint, parce que les preuves ont été données que les pays où l'école est plus lente, plus retardée et plus lente, sont les premiers aux évaluations PISA et donne plus tard des étudiants extraordinaires. Donc ce qu'on n'a pas appris à 6 ans, ben on l'apprendra à 7 ans et demi, 8 ans. Mmh. Et on l'apprendra très rapidement. Donc les Finlandais freinent le développement des enfants, les font rentrer à l'école plus tard, font des cours brefs et ne mettent pas de notes jusqu'à l'âge de 10, 12, 13 ans. Et ensuite, ils notent, parce qu'il faut bien l'évaluer.
Oui.
Ensuite, ils notent, et quand on fait les évaluations PISA, ils sont premiers. Autour de l'école, il faut ouvrir l'école. Les professeurs, les enseignants ne peuvent pas tout faire. Leur contrat social, c'est d'instruire, c'est pas d'éduquer, c'est pas d'amuser. Ils doivent instruire, et la plupart le font très bien. Mais les familles angoissées par le chômage, angoissées par la fonction de l'école qui est la nouvelle organisatrice de nos sociétés, c'est souvent les parents qui mettent trop la pression sur les résultats scolaires et qui angoissent les enfants, ce qui diminue les performances scolaires. Mmh. Et le troisième autour, c'est autour de la famille. Les familles closes ne sécurisent pas les enfants. C'est les familles ouvertes. C'est-à-dire qu'une femme peut être seule avec un autre homme, avec sa propre mère, avec un groupe de copains ou de copines, c'est une famille ouverte. Et cette femme offrira à son enfant, même si elle est seule juridiquement, elle offrira à son enfant une niche affective stable, sécurisante. Et autour de la famille, il faut développer les patronages, les activités extra-familiales, comme je l'ai vu chez les Indiens du Lima, au nord de Lima, Lambayeque. Les Indiens, eux, sont très pauvres, comme je l'ai vu au Congo aussi, où les Congolais sont follement pauvres, les enfants ne sont jamais seuls. Il y a toujours une structure artistique, de football pour les garçons, même si les filles s'y mettent, de chansons, d'activités de patronage, de couture, qui font qu'un enfant n'est jamais laissé seul et il n'y a pas de suicide d'enfant.
Est-ce que, Boris Cyrulnik, on peut dire aussi qu'il y a ce besoin, vous abordez ça dans le livre, de redévelopper l'intérêt pour donner, pour contribuer, pour parce que c'est ce sens aussi qui va faire peut-être que les enfants vont pouvoir aimer la vie, parce que le but c'est pas seulement de les empêcher de se suicider, c'est de faire qu'ils aiment la vie. Et vous abordez ce thème, hein, donner envie de donner, hein, que la vie c'est contribuer.
Tout à fait. Alors, ce que j'ai vu dans les pays pauvres, c'est que les enfants travaillent.
Oui.
Bien sûr, il ne s'agit pas de les emmener à la mine ou de les faire travailler dans des briqueteries. Dans ce cas-là, c'est pénalisable, c'est condamné par la loi internationale. Il s'agit de leur donner le droit de donner. J'ai vu au Congo, le matin, avant d'aller à l'école, les enfants prêtent des bidons jaunes presque aussi grands qu'eux, vont chercher de l'eau, mettent des pastilles pour assainir l'eau, vont à l'école et le soir font la tournée des âgés pour distribuer de l'eau. Si bien que quand quelque chose ne va pas, ils le repèrent tout de suite et ils le signalent aux parents. Mmh. Et les enfants sont fiers d'eux. Ils ont consacré un peu de temps à aider leurs parents, le reste du temps à jouer et à apprendre à l'école. Ils se développent très bien. La société est pourtant très vulnérable.
Merci infiniment, Boris Cyrulnik, pour ce moment de partage. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, issu de ce travail de recherche, des propositions que vous avez faites quand un enfant se donne la mort. C'est un travail aussi de prévention, hein, du suicide des enfants.
Oui.
Un livre sorti chez Odile Jacob. Vous l'avez d'ailleurs sous-titré « Pour que nos enfants aiment la vie ». Merci infiniment.
Merci de m'avoir invité.
Si vous souhaitez obtenir un enregistrement de cette émission, vous pouvez dès maintenant téléphoner au 026 323 24 24. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bien sûr une très bonne fin d'après-midi. Vous écoutez La Première, il est exactement 14h.